RFI. Grand reportage.
Un feu a pris juste en bas, chez nos voisins. Alors j'y suis allé pour voir si je pouvais aider à l'éteindre. Mais je ne pouvais pas respirer. Alors je me suis assis par terre et des braises volaient, venaient exploser sur le sol autour de moi et l'incendie arrivait sur moi. J'ai pensé que je devais partir, sinon j'allais mourir.
En Australie, les incendies font rage depuis 5 mois. Des feux d'une ampleur sans précédent qui ont déjà fait 27 morts, des milliers de sans-abri et brûlé plusieurs millions d'hectares de forêt. Quelles en sont les causes? Quelles conséquences pour les hommes, l'agriculture, la faune sauvage? Quand l'Australie brûle, c'est un grand reportage de Muriel Paradon.
Stuart Robb a enfilé sa tenue de pompier, veste jaune et pantalon bleu marine. Il nous emmène à bord de sa camionnette vers un incendie qui brûle depuis 2 mois. Stuart appartient au service rural des pompiers de Nouvelle-Galles du Sud, une des régions les plus touchées par les feux de forêt. Ici, nous sommes à Port Macquarie, une petite station balnéaire à 400 km au nord de Sydney. La mer, la rivière et les forêts, un paysage idyllique lorsqu'il n'est pas brûlé par les incendies comme celui de Crestwood.
Dans cette zone de Crestwood, on a eu des feux très importants en novembre. Ça s'est déplacé du nord au sud. Et vous allez voir, lorsqu'on va aller sur cette route, vous vous rendrez compte jusqu'où le feu est allé. On a affaire à des portions de feu qui brûlent toujours encore en interne. Sous la terre, donc, ça continue. Vous voyez comment ça a brûlé ici? On va mieux voir par là. Vous voyez ces arbres? Le noir qu'il y a en haut? Les flammes sont allées jusque-là.
Même si l'incendie de Crestwood est sous contrôle, il brûle toujours. Nous croisons sur notre route un homme en voiture qui s'inquiète. Le pompier le rassure.
Non, c'est cool. C'est juste de l'autre côté du chenal. Et ça brûle au sol, donc ça va.
Le feu continue. Une épaisse colonne de fumée s'élève dans le ciel. Deux avions bombardiers d'eau sont envoyés sur zone pour refroidir le sol.
C'est un appel pour les deux avions. Les avions utilisés ici sont des bombardiers d'eau. Ils portent 3000 litres d'eau ou de produits retardants. Ça dépend de ce qu'on leur demande. C'est difficile d'éteindre un feu avec un avion. On utilise les avions pour ralentir les feux ou leur intensité, pour que les équipes au sol puissent se rapprocher et éteindre l'incendie. En fait, les avions permettent de gagner du temps pour que les pompiers puissent élaborer leur stratégie sur le terrain ou puissent évacuer les gens.
Nous rejoignons sur une colline les pompiers au sol qui attendent à côté de leur camion rouge équipé de lance à eau. Ils observent le travail des avions. Terry Dawson, vêtu d'une tenue jaune souillée par la cendre, est un de ces pompiers volontaires, comme la plupart en Australie, qui donne tout son temps pour protéger sa communauté.
Ça fait 2 ou 3 fois que le feu reprend ici. Il faudrait beaucoup de pluie pour qu'il s'éteigne. Malheureusement, Port Macquarie n'a pas eu de pluie comme d'habitude, alors qu'on a beaucoup de pluie ici. Donc il faut s'attendre à ce que ce genre de choses arrive. Je pense que c'est la sécheresse. C'est probablement la pire des choses. Le feu frappe à un endroit, puis un autre commence, donc c'est vraiment dû à la sécheresse.
Vous travaillez dur alors?
Oui, on est appelés tous les jours depuis 5 mois et demi. On peut dire que c'est beaucoup de travail pour les pompiers volontaires.
La saison des feux, habituelle en Australie, a commencé 2 mois plus tôt que prévu. En cause, une longue sécheresse. Avec les températures élevées et les vents forts, le pays s'est embrasé comme jamais. À 1 heure de Port Macquarie, plus au sud, le hameau de Rainbow Flat. Des pins, des eucalyptus, le feu a fait des ravages. Ici, même la caserne des pompiers a brûlé. C'était en novembre dernier. De terribles feux ont ravagé la forêt et les maisons qui se trouvaient dedans, dont celle de Gwenda et Case Duncan, un couple de sexagénaires qui vit toujours sur place. Dans un paysage dévasté, Gwenda nous montre les ruines de sa maison. Quelques bouts de murs en briques, un toit en tôle complètement déformé et des cendres.
Ça, c'était notre maison. C'est tout ce qu'on avait. Une maison magnifique. Des biens que nous avions achetés au fil des années, au prix de sacrifices durant toute notre vie. Et tout est parti en 5 minutes. À part 40 ans de beaux souvenirs qu'on garde en tête, il n'y a pas de traces concrètes. Il y avait 7 générations de photos de famille et de souvenirs personnels partis en fumée. On a aussi perdu nos chèvres, des poules, des cochons d'Inde, mais certains des ponts ont survécu. On avait aussi un potager avec des légumes, ici, pour les protéger des kangourous, les opossums qui auraient pu venir les manger. On avait fait des cages, mais les feux ont pris beaucoup de nos plantations. Il n'y a plus rien.
À l'écart des ruines, Case, le mari de Gwenda, bricole sous un abri en dur qu'il est en train de construire. Case est aussi pompier volontaire et il se souvient avec émotion du moment où il a vu sa maison brûler, impuissant.
Je savais que le feu approchait. Alors j'ai dit à Gwenda, prends les affaires auxquelles tu tiens le plus et va-t'en. Elle est partie, moi je suis resté. Je pensais que ça irait, mais un feu a pris juste en bas chez nos voisins. Alors j'y suis allé pour voir si je pouvais aider à l'éteindre, mais je ne pouvais pas respirer. Je me suis assis par terre, des braises venaient exploser sur le sol autour de moi et l'incendie arrivait sur moi. J'ai pensé que je devais partir, sinon j'allais mourir. Alors je suis parti et après 1h30, j'ai demandé à un collègue de la brigade de venir chez moi et j'ai vu que notre maison était en flammes. Il n'y avait plus rien à faire pour la sauver. Mais j'arrête pas d'y repenser. Je me dis, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose différemment? Mais je pense pas. Alors voilà, maintenant, on reconstruit.
Depuis le drame, les Duncan vivent dans une caravane sur leur terrain et reconstruisent un abri en dur. La dalle de béton est déjà là et une armature en fer. Un garage en guise de maison, c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre.
Ce sera notre nouvelle maison, un garage. Il y aura une salle de bain, une buanderie, une cuisine, une chambre.
Vous n'étiez pas assuré?
Non, parce que ça coûtait trop cher d'être assuré. On vit en dessous du seuil de pauvreté. On a des retraites trop faibles qui nous permettent juste d'acheter à manger et de payer les factures, rien d'autre.
Est-ce que vous avez eu des aides du gouvernement?
Le gouvernement fédéral a donné 1 000 $, 600 euros aux sinistrés. C'est pas terrible. On peut acheter du carburant, un peu de nourriture et des vêtements, mais ça part vite.
Ça nous a dévastés parce qu'on était venus ici justement pour la nature, pour les arbres. C'était beau, c'était vert et maintenant les arbres ne sont plus que des pics noirs plantés dans un sol noir, brûlé. Et c'est difficile de vivre avec ça, sans compter le fait d'avoir perdu notre maison et les biens qu'on a amassés toute notre vie. Mais on a de l'espoir parce que des gens que nous n'avions jamais rencontrés avant nous ont offert leur aide. On en retire beaucoup de force.
Les Duncan, encore traumatisés, font face grâce à la solidarité des Australiens qui s'organisent pour aider les sinistrés. Pour se rendre à Hillville, littéralement la ville des collines, il faut emprunter un chemin forestier à travers le parc national de Tallawal. C'est un spectacle de désolation sur des kilomètres des arbres morts, roussis par les incendies, pas une âme qui vive.
Hey, come on.
La forêt débouche enfin sur Hillville, quelques fermes à flanc de colline qui ont échappé par miracle aux flammes, mais pas à la sécheresse. Michael Burgin vous accueille avec des yeux rieurs sous sa casquette. 2 ans qu'il a quitté Sydney, la plus grande ville australienne, pour s'improviser fermier dans ce coin perdu. 2 ans que son exploitation bovine souffre du manque de pluie.
J'ai 70 vaches, 37 vaches et 27 bébés. Je fais du bœuf. Là, c'est mon taureau qui est assis. Je l'ai mis à l'écart parce qu'il perdait trop de poids. Je le nourris, je m'occupe de lui. Mais les pauvres filles là-haut, elles sont toutes maigres. Elles n'ont pas d'herbe depuis 12 mois. On n'a pas eu de pluie. On a eu 40 mm de pluie à Noël, mais avant ça, c'était en février l'an dernier. Là, je viens d'acheter 1 100 $, 700 euros de nourriture pour les vaches. C'est du foin. Et ça me fait 2 mois. Excusez la poussière, il n'a pas plu depuis si longtemps. Nos réservoirs sont vides. Et puis j'ai perdu 2 km de clôture dans les incendies. Il faut que je les remplace, mais c'est surtout l'eau. C'est tout ce que j'ai. C'est triste, hein? Ça, c'est Gary, mon voisin. Il creuse un trou. Il nettoie d'abord pendant que c'est sec, et il creuse plus profond. Comme ça, quand la pluie arrivera, il y aura plus d'eau dans le réservoir. C'est ce qu'on espère.
Et pourquoi c'est si sec ?
Aucune idée. C'est des cycles. La sécheresse, le feu et ensuite la pluie. Je ne crois pas que ce soit le changement climatique.
Et vous ne croyez pas que l'homme est responsable de ce qui arrive ?
Non, les vaches peut-être. Elles produisent trop de trucs. Mais non. C'est des conneries. C'est juste le cours de la vie.
La sécheresse et les incendies n'affectent pas seulement les élevages, mais aussi les cultures, comme les vignes. L'Australie est le 6e producteur de vin au monde. Dans la cave de la propriété Casgrain à Port Macquarie, des clients sont venus goûter l'une des 600 000 bouteilles produites chaque année par cette famille de Français venus s'installer en Australie dans les années 50. Aujourd'hui, le patron, c'est Jean Casgrain. Il nous fait la visite.
Ça, c'est nos tonneaux qui sont à l'entrée de notre propriété viticole. La plupart de ces barriques viennent de France, d'Alençon, Cognac. Nous importons des grappes de toutes les régions. Donc, nous avons une gamme de vins très variée, ce qui est très courant en Australie. Nous faisons du chardonnay, du sémillon, du sauvignon blanc, du pinot gris. Et la plupart de nos variétés viennent de France. Donc, nous prélevons les raisins de différents endroits de l'État du Nouvelle-Galles du Sud. On les transporte ici et on les fait vieillir dans notre cave.
Nous sortons à l'extérieur accompagnés par le chant des cigales pour voir une petite partie des vignes.
Nous avons des vignes ici. Cette vigne est très jeune et on n'aura certainement pas de production cette année pour 2 raisons. D'abord à cause de la sécheresse. Les plants ont été stressés. Regardez, les grains sont jeunes, petits. Ils n'ont pas été à maturation comme il faut. Mais pire, en novembre, le feu est venu jusque sur nos terres. Et depuis cette date, on a de la fumée presque tous les jours. Et les grains de raisin ont pris l'odeur de la fumée. Si vous goûtez, ça va, mais au moment de la fermentation, quand le sucre se transforme en alcool, le vin prend alors une très forte odeur de fumée. C'est comme un cendrier sale.
Alors vous jetez tout à la poubelle ?
Oui, notre vignoble de Port Macquarie ne pourra pas produire, mais ça ne représente que 5% de notre production. Peut-être un autre aussi dans la vallée Hunter. On le perdra aussi. Pour le reste, on doit attendre et on verra. À ce stade, on ne sait pas combien on va perdre.
La saison des vendanges commence en ce moment et les viticulteurs australiens sont inquiets. À Port Macquarie, il y a un site apprécié des touristes qui est littéralement pris d'assaut cette année. C'est l'hôpital des koalas. Avec les incendies, des centaines, voire des milliers d'entre eux sont morts. Les images de ces marsupiaux victimes des flammes ont ému le monde entier. Ici, on soigne les blessés. Sue Ashton, la directrice, nous emmène à l'écart du public, à l'intérieur même de la clinique.
Quand les feux ont commencé il y a 6 semaines, on avait 2 tables d'opération parce qu'on avait tellement de koalas qu'on avait besoin de plus de place. Quand les koalas arrivent de zones d'incendie, on les réhydrate parce qu'ils sont déshydratés. Ensuite, on les laisse 24 heures tranquilles car ils sont très stressés. Ils n'ont jamais vu de monde avant, ils ne sont jamais montés dans une voiture. Ensuite, le jour suivant, on s'occupe de leurs pattes qui sont brûlées, noires. C'est très triste. On leur coupe les peaux mortes, on nettoie les blessures avec précaution, on leur met une crème appelée flamosine qui est très bien pour les blessures. Et je vais vous montrer après un koala qui a été soigné comme ça. Il va beaucoup mieux maintenant. Ensuite, on leur met des bandages, on les change tous les 4 ou 5 jours. Ici, on a en ce moment 65 koalas, dont 45 viennent des zones d'incendie. Normalement, en cette période, on en a 30, c'est le double.
À l'extérieur du bâtiment, d'immenses cages avec des eucalyptus dans lesquels les koalas récupèrent, comme Nabia Costin, protégée du soleil par un parapluie.
Lui vient de Nabiak, au sud de Port Macquarie. L'histoire est intéressante. Il a été retrouvé au bord de l'autoroute qui mène à Sydney. Un homme, Josh, l'a vu. Il est sorti de sa voiture, a arrêté la circulation, a enveloppé le koala dans une serviette et l'a amené à l'hôpital. C'est formidable. Quand il est arrivé, il était vraiment gravement brûlé. Regardez sa fourrure, elle l'est encore. Son nez et ses oreilles étaient brûlés, mais il s'en sort bien. Quand il est arrivé, il ne bougeait pas, il ne mangeait presque pas. Maintenant, il bouge, il grimpe, il va mieux.
Ces derniers mois, il y a eu des feux énormes. Quelles ont été les conséquences pour les koalas?
Les feux ont été dévastateurs. C'est une tragédie nationale. Nous avons perdu tellement de koalas. Les koalas ne peuvent s'enfuir devant les incendies. Ils grimpent à un arbre et sont frappés par le feu. Et beaucoup de koalas ont été calcinés. Les koalas ne font des petits que tous les 2 ans environ. Et nous avons perdu des centaines, voire des milliers de koalas en quelques semaines. Ça va prendre beaucoup de temps pour renouveler la génération. C'est une tragédie.
Une tragédie, car les koalas, une espèce déjà menacée, n'existent qu'en Australie. À l'hôpital, les visiteurs sont touchés par ce drame. Ils s'interrogent sur l'ampleur inédite des incendies.
On vit ici à Port Macquarie depuis 23 ans et on n'a jamais vu autant de dévastation.
C'est peut-être une façon naturelle de nettoyer et de régénérer la nature. Le bush revient, c'est une chose naturelle.
Et le changement climatique ?
On est réservé sur le sujet. Il n'y a pas assez de preuves.
Meg, elle, vient de Canberra, la capitale australienne. Pour elle, pas de doute, le changement climatique est à l'origine des feux sans précédent dans le pays.
C'est à cause de la sécheresse et, j'en suis sûre, du changement climatique. C'est un processus long, mais les gens n'ont pas encore capté. Je parle du gouvernement, bien sûr, mais aussi d'une partie de la population. C'est un peu comme s'ils étaient immunisés. Ils ne regardent pas vraiment autour d'eux. Et je pense que c'est la leçon qu'on va tirer de ces feux. Il faut que les gens deviennent plus conscients de ce qu'il se passe. Ce n'est pas dans 20 ans, mais tout de suite qu'on peut voir les effets du changement climatique.
Il y a 30 ans, le groupe australien Minitol faisait un tube en dénonçant les feux qui dévastent la Terre. Une chanson plus que jamais d'actualité.
Quand l'Australie brûle, un grand reportage de Muriel Paradon, réalisation Pierre Chaffangin.